Alors avant de vous faire une présentation du sel, parce qu'en fait aujourd'hui, vous ne le saviez peut-être pas en venant, mais c'est la journée du sel, j'aimerais vous apporter une petite réflexion biblique. Cette année, pour la journée du sel, nous avons choisi le thème « Faire le bien et bien le faire ». Et faire le bien, c'est quelque chose qui doit nous interpeller en tant que chrétiens. Parce que c'est ce que nous sommes appelés à faire. Mais quand on parle de faire le bien, ça paraît plutôt abstrait comme concept. Je sais pas pour vous, mais pour moi, faire le bien et bien le faire, ça pourrait être aussi bien la question qu'on nous pose au bac de philo. Alors, selon vous, qu'est-ce que c'est faire le bien et bien le faire ? Et donc, du coup, avec mes collègues du sel, on a décidé de faire un petit exercice et de demander à plusieurs personnes, pour vous, qu'est-ce que faire le bien et bien le faire ? Et donc, j'ai sélectionné, rien que pour vous, quelques petites réponses qu'on a eues. Pour certains, faire le bien, c'est faire des choses qui contribuent à aider, à faire plaisir, à améliorer. On a aussi eu comme réponse, faire le bien, c'est tout simplement aimer en agissant. Il y en a un autre qui a dit que le bien peut être dans des petites choses qu'on accomplit. Et un tout petit dernier, faire le bien, c'est appliquer ce proverbe africain. Ce que tu fais crie si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Ce que je fais crie si fort que je n'entends pas ce que tu dis. J'aime bien celui-là. Spontanément, si je vous demandais à vous, pour vous, qu'est-ce que faire le bien, on aurait tous une certaine notion, une réponse à apporter à cette question, une notion propre de ce que ça signifie. Mais concrètement, comment faire le bien ? Comment appliquer cette notion ? Ça, c'est la question. C'est pas juste de la théorie, c'est comment on va le mettre en pratique. Et la Bible a quelque chose à nous dire sur cette question. C'est pourquoi, dans le cadre de la prédication de la journée du sel, nous vous proposons de méditer sur deux textes, de la première lettre à Pierre. Et comme je n'ai pas donné le texte à la sono, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première lettre à Pierre. De Pierre. Donc le premier texte, c'est dans le chapitre 1. Pierre, chapitre 1, versets 1 à 2, et je lirai dans la version Nouvelle Bible Seconde. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont été choisis et qui vivent en étranger dans la dispersion, dans le Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, tels qu'ils ont été désignés d'avance par Dieu, le Père, dans la consécration de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. J'enchaîne avec 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12. Bien-aimés, je vous encourage, comme des exilés et des étrangers, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à la main. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations pour que, sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. Oui, la Bible nous offre un cadre global pour faire le bien et bien le faire dans le monde tel qu'il est. Un monde qui est rempli de détresse, qui est marqué par le mal, par la souffrance et oui aussi par la pauvreté. Dans son discours, Pierre, là, ne parle pas à proprement parler d'action sociale. Il aborde d'autres sujets. Mais ensemble, on va voir que ces versets qu'on vient de lire sont tout à fait applicables à une action chrétienne dans un monde en détresse. Et donc, je vais vous proposer de méditer sur trois axes. On va essayer de décliner un peu ensemble faire le bien, qu'est-ce que c'est ? Déjà, faire le bien en raison de notre identité. Premièrement, nous faisons le bien en raison de qui nous sommes. De qui nous sommes en tant que chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Et aussi, en raison de qui nous sommes en fonction du contexte dans lequel on vit, qui est différent selon chacun. On n'a pas tous le même background, on vient pas tous du même pays, etc. Donc, tout ça va façonner notre façon de faire le bien. Dans notre premier texte, au chapitre 1, Pierre donne une double caractéristique des chrétiens qui est encore valable pour nous aujourd'hui. Nous sommes étrangers et nous sommes choisis. Alors demain, vous le savez tous, c'est écrit dans la newsletter, on en parle depuis des mois et des mois, on a une équipe qui va partir au Sénégal. C'est la grande aventure. Donc j'imagine que vos valises sont prêtes, ou presque, ou pas. Vous allez pas oublier de prendre, des jupes longues pour les filles, ou votre truc anti-moustique, mais un truc qu'il faudra absolument pas oublier, donc si vous l'avez oublié dans votre liste, notez-le, c'est de prendre votre passeport. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas, sinon vous allez vous faire expédier illico presto. Le passeport, c'est ce qui va prouver d'où vous venez, c'est ce qui va prouver votre identité. Une fois sur place, si on vous fait un contrôle de papier, vous allez sortir votre passeport, c'est ce qui prouve aujourd'hui que vous êtes français. Vous êtes français ou américain. Et Pierre affirme pourtant que les chrétiens sont des étrangers dans la dispersion. C'est bizarre, parce que on est français, on est né en France, on a notre carte d'identité, notre passeport, etc., on a grandi ici. Qu'est-ce qui peut faire dire à Pierre qu'on est malgré tout des étrangers, même si on appartient pleinement à un pays ? Comment comprendre ce qu'il dit ? Je dirais surtout métaphoriquement. Selon la Bible, chaque chrétien est un étranger. C'est un exilé, un voyageur sur terre. Notre patrie n'est pas ici. Notre patrie, elle est au ciel, avec le Seigneur. C'est ça qu'on vise. C'est ça notre but. On a la certitude de ça, du fait qu'on a cru en Jésus, qu'on a donné notre vie à Jésus. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, il y avait déjà quelques exemples qui étaient une préfiguration de ce que nous allions vivre en Jésus. Abraham confesse par exemple devant les Hittites, « Je suis un immigré et un résident temporaire chez vous » dans Genèse 23. Quand il dit ça, Abraham vivait dans la terre promise, celle que Dieu lui avait donnée. Il était chez lui. Ou alors, pendant les 40 ans dans le désert, le peuple d'Israël était en attente de cette terre qu'on lui avait promise, d'une terre où il soit chez lui. Aussi, les chrétiens sont des voyageurs en route. Et nous sommes en route, en attente. Et puis alors en exil à Babylone, le peuple de Dieu, il est loin de son pays carrément. Il est mêlé même à un peuple païen. Aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, nous sommes en exil parmi les gens des nations. Et c'est au milieu de ces gens des nations que nous sommes appelés à avoir une belle conduite. Nous sommes des étrangers. La deuxième caractéristique, c'est que les chrétiens sont choisis par Dieu lui-même. et je dirais même par le Dieu trinitaire. Comme dit Pierre, tels qu'ils ont été désignés d'avance par Dieu, le Père. Pour le Père, nous sommes son projet, nous sommes sa volonté. C'est ça que Pierre met en avant. Il nous a voulu, chacun, sur cette terre. Il nous a voulu en tant qu'enfants. C'est rassurant, non ? C'est rassurant de se dire ça. Pour le Père, pour l'Esprit, pardon, il est question de consécration ou de sanctification. La consécration, la sanctification, c'est ce qui va nous conduire à faire le bien. Et pour le Fils, deux éléments sont mentionnés par Pierre. L'obéissance et l'aspersion du sang. Nous sommes choisis par le Dieu trinitaire. Nous avons été choisis pour recevoir le pardon de nos péchés et, pas s'arrêter là, pour obéir à Dieu. Ah oui, j'avais un petit exemple et j'ai oublié de le sortir, c'est pas grave. Imaginez, vous avez un miroir, vous vous regardez dans le miroir. Sur ce miroir, il y a écrit vos péchés. Jalousie, mensonge, désobéissance, enfin, voilà, imaginez. L'action de Jésus, c'est de prendre un chiffon et d'effacer ce qu'il y a sur ce miroir. Il efface nos péchés. Et c'est la beauté de la Nouvelle Alliance, mes frères et sœurs. Dieu, par Jésus, par le sang de Jésus, a effacé nos péchés. Ce qui fait que quand on se regarde dans ce miroir, c'est plus la même personne, c'est pas ces péchés qu'on voit tous les jours qui nous agressent. Nous sommes une nouvelle créature. Et il inscrit sa nouvelle loi dans notre cœur. C'est précisément sur cette base de pardon de nos péchés et du renouvellement de notre être que nous pouvons faire le bien. À la fois étrangers sur cette terre et choisis par Dieu. C'est ça notre identité. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Des êtres graciés, choisis. Alors qu'est-ce que ça implique ? J'ai plusieurs questions à vous poser. À nous poser. Déjà, la première, est-ce que nous nous considérons comme des étrangers dans la dispersion ? Tuc, tuc, tuc. Réponse A, oui. Réponse B, non. Peut-être. Moi, je dirais que dans le tumulte de notre quotidien, être des étrangers, être des exilés, des voyageurs sur Terre, c'est une caractéristique de notre identité qu'on a plutôt tendance à mettre de côté. Parfois, ne sommes-nous pas trop à l'aise dans le monde ? Est-ce qu'on n'est parfois pas prêt juste à poser nos valises, à nous y installer, comme si on était déjà arrivé à destination ? Quelles sont nos ambitions ? Quelles sont nos priorités dans notre vie ? Et comment on peut mettre nos ambitions et nos priorités à la perspective de ce que dit Pierre ? Se considérer comme étranger dans le monde et se savoir choisi et béni par Dieu, sauvé gratuitement, c'est ça qui va nous conduire à faire le bien. Et oui, mes frères et sœurs, c'est parce que Dieu nous a fait du bien, le premier, que nous, à notre tour, nous pouvons faire le bien. C'est parce que Dieu nous a fait du bien que nous pouvons faire le bien. Être pleinement conscient de notre identité, ça va nous permettre de nous centrer sur Dieu et de nous ouvrir aux besoins des autres. Ça va aussi nous aider à accorder une juste valeur à nos biens matériels, à ce qu'on possède dans ce monde. Notre identité, c'est Dieu qui nous la donne. Et un étranger de passage ne va pas s'encombrer des mêmes choses qu'une personne qui s'installe. Demain, enfin ce soir, demain, dans vos valises, vous n'allez pas emmener, je sais pas, une bibliothèque. Vous n'allez pas emmener votre dernière Jordan. Vous allez plutôt, prendre des pantalons légers. Vous allez voyager libre et léger parce que vous vous installez pas au Sénégal. Vous êtes de passage au Sénégal. Et bien pareil, sur cette terre, nous sommes de passage. Nous voyageons libres et légers. Voilà ce dont on a besoin pour faire le bien. Alors, je disais que faire le bien, c'est déjà en raison de notre identité, mais nous sommes aussi appelés à faire le bien au milieu du monde. Être des exilés et des étrangers choisis par Dieu, ça va nous amener à faire le bien, mais au milieu du monde, pas juste entre nous, pas juste pour nous-mêmes. Sinon, à quoi ça servirait? Au chapitre 2, au verset 11 et 12, on peut relever quelques éléments de la conduite à adopter. Un premier élément, c'est quand Pierre dit « Bien-aimés, je vous encourage, comme des exilés et des étrangers, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. » En gros, faire le bien, c'est déjà ne pas faire le mal. Et oui, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup hein, pour comprendre cela, mais c'est tellement évident qu'il faut quand même le mentionner. Pierre nous exhorte à nous abstenir des désirs de la chair. Ces désirs, c'est quoi ? C'est ce qui poussait, par exemple, le peuple d'Israël à se livrer à leurs penchants ou à traiter durement leurs ouvriers. Ces désirs, c'est ce qu'on fait naturellement et qui ne plaît pas à Dieu. Chacun lutte à ses propres combats, chacun a ses propres luttes. Et là, sur ces choses où... Par exemple, Paul se battait en disant « je fais le bien, le mal que je ne veux pas faire », etc. Nous sommes chacun amenés à avoir notre lutte. Et oui, parce que notre nature humaine reste une part de nous, jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous sommes appelés à batailler contre nous-mêmes, parce que cette nature, elle nous attire au péché, naturellement. C'est vers là qu'on veut aller. Si on a deux choix, naturellement, on ira vers le mauvais. Grâce à Jésus, nous sommes libérés. Mais faire le bien, ça va nécessiter d'aller à l'encontre de notre nature humaine. Et Pierre le souligne, c'est un combat réel. C'est pas de lutter contre nous-mêmes qui n'est pas normal. C'est plutôt de ne pas lutter. La normalité, c'est de lutter. Faire le bien, c'est aussi avoir une belle conduite parmi les gens des nations, comme c'est dit au verset 12. Faire le bien, ici, est mentionné avec un mot qui signifie littéralement « beau ». Une belle conduite, une belle œuvre. On aime ce qui est beau. J'aime les belles pâtisseries qui vont me donner envie de manger. Ou j'aime les jolies fleurs. Alors pourquoi faire le bien ? On ne pourrait pas le faire de manière belle. Il y a un aspect esthétique là-dedans. Faire le bien et bien le faire de manière belle. Nos belles œuvres. En fait, toute la Bible va nous montrer ce que c'est faire le bien. Pour Jésus, ça se résume à obéir à deux commandements. Faire le bien, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Aimer Dieu, aimer son prochain. Tout simplement. Pierre apporte quelques nuances au verset 17 du chapitre 2, où il dit « Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi », ou on pourrait dire le président aujourd'hui. « Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi ». Personne, je dis bien personne, n'est exclu de cet appel à honorer tout le monde. Et tout le monde, c'est tout le monde. C'est pas juste machin parce que je l'aime bien ou truc parce que il m'a rendu un service l'autre jour et il a bien agi envers moi. Honorer tout le monde. Et l'action sociale fait partie des belles œuvres. Une action sociale notamment envers les plus pauvres. Et c'est ce que nous sommes appelés à accomplir. Et puis, enfin, Pierre nous dit que cette action est à, enfin, faire le bien, la belle conduite, se fait parmi les gens des nations. Si nous sommes aujourd'hui placés dans ce monde, dans notre lieu de travail, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que c'est là que nous sommes appelés à faire le bien. Mais faire le bien, ça commence dans l'Église. C'est un peu comme si l'Église, c'était déjà notre terrain d'entraînement. On commence à faire le bien envers nos frères et sœurs, par l'amour qu'on a les uns envers les autres. Alors, comment on peut faire le bien vis-à-vis de nos frères et sœurs ? Ben, je sais pas, en aidant à l'un ou l'autre à déménager, par exemple, ou... En apportant un petit plat tout chaud à la personne qui a chopé un rhume, ou en prenant des nouvelles de la personne qui ne va pas bien. Toutes ces choses sont des façons pour nous de montrer l'amour qu'on a les uns pour les autres. Un amour visible. Et c'est à cela, à cet amour, que tous reconnaîtront que nous sommes les disciples de Jésus. Mais comme je vous disais, ce bien, il n'est pas censé rester entre nous. Ce bien, on le fait dans l'Église et ensuite il est amené, vous savez, comme un vase qu'on remplit, on remplit d'amour, et puis bam, à un moment, on oublie d'arrêter et puis ça déborde. Et bien pareil, l'amour qu'on a les uns pour les autres, on s'exerce dans l'Église et ensuite ça doit déborder autour de nous. Le bien, faire le bien, c'est pareil, ça doit déborder au-delà des limites de l'Église, et ça doit bénéficier aux gens des nations. Plus loin, dans le chapitre 2 et 3, je crois, Pierre va appliquer ce faire le bien auprès des gens des nations à des situations quotidiennes. Par exemple, les serviteurs qui sont appelés à faire le bien envers leurs maîtres non-croyants, ou les chrétiennes qui sont appelées à faire le bien envers leurs maris non-chrétiens. Et tous, sans exception, doivent être prêts à témoigner de l'espérance qui est en eux. Enfin, après avoir vu que faire le bien, c'est une question d'identité, que c'est au milieu du monde, bah surtout, faire le bien, c'est pour glorifier Dieu. Et on l'a chanté, Dieu est le seul digne de gloire. Si les chrétiens sont appelés à faire le bien, c'est, dit Pierre, pour que sur le point même où les gens des nations vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. C'est au verset 12. Dans le sermon sur la montagne, Jésus dit à peu près la même chose. Il nous dit « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes » et glorifie le Père qui est dans les cieux. Quand les chrétiens font le bien, ils contribuent aussi à faire cesser les accusations que les gens des nations peuvent amasser contre eux. Qu'ils peuvent amasser contre eux ou contre Dieu, contre le Christ, contre la Bible, contre la foi. Les persécutions, les attaques, on en a tous les jours. Et souvent, on a envie d'y répondre. Moi, je sais que quand mon frère ou ma sœur, par exemple, ils me disent une parole méchante, j'ai qu'une envie, c'est d'aller sur le même terrain et de répondre pareil. Mais si je fais le bien, ça fera cesser toute accusation. Avoir un souci authentique pour les pauvres peut aussi être un témoignage puissant rendu au Dieu de la Bible. Alors, j'ai une petite histoire. Au IVe siècle, l'empereur Julien l'Apostat a cherché à rétablir le paganisme, donc le culte des anciens, des dieux, etc. Cette tâche, elle n'a pas été de tout repos. On peut même dire qu'elle a été difficile. Pourquoi ? Parce qu'au IVe siècle, il y avait les chrétiens. Les chrétiens qui faisaient du bien. Alors Julien l'Apostat, il a été obligé d'avouer, et je cite, « Nous, païens, avons oublié ce que la religion chrétienne a principalement revendiqué, à savoir la philanthropie envers l'étranger, l'inlassable sollicitude d'une sépulture pour les morts et le sérieux de la vie morale. C'est une honte pour nous païens que parmi les juifs, personne ne mendie et que les galiléens impies, je traduis les chrétiens, nourrissent non seulement leurs pauvres, mais aussi les nôtres. Comment vous dire que Julien l'Apostat, il n'était pas très content? Parce que il voulait tout simplement dégager cette religion chrétienne et restaurer le paganisme, mais les chrétiens faisaient trop le bien pour qu'on ne puisse pas le voir et qu'on puisse les négliger et les mettre de côté. Et comment ils faisaient ce bien? Parce qu'ils étaient centrés sur Dieu. Faire le bien était totalement, entièrement motivé par leur désir de voir Dieu glorifié. Donc, il ne s'agissait pas du tout de faire le bien pour les uns et les autres, pour se mettre soi-même en avant. C'était pour mettre Dieu en avant. Le document de base biblique du CNEF Solidarité décrit ce que c'est faire le bien. En servant cette société humaine, nous avons le désir de glorifier Dieu et de sanctifier son nom. Dieu donne un sens à l'action sociale, mais ce n'est pas pour autant qu'il existe pour cela. Dieu, en effet, n'existe pas en vue de l'homme, mais c'est l'homme qui est fait pour glorifier Dieu. Dieu n'existe pas en vue de l'homme, mais c'est l'homme qui est fait pour glorifier Dieu. Cette considération nous aidera à ne pas perdre de vue l'horizon missionnaire de notre engagement social. Nous agissons dans la société en raison du Dieu que nous connaissons et que nous aimons, et nous voulons faire connaître ce Dieu à nos frères et sœurs en humanité, que nous aimons aussi. Enfin, le texte de Pierre ne va pas préciser quel est le jour de l'intervention de Dieu. Il peut s'agir du jour du jugement. Là, à ce moment-là, même ceux qui n'ont pas cru seront obligés de reconnaître la souveraineté de Dieu et la seigneurie de Jésus. Ils seront obligés de plier le genou tellement Dieu est grand. Mais il peut s'agir aussi du jour où les non-croyants seront gagnés à la foi, aidés en cela par la belle conduite des chrétiens. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'attendons-nous ? Ne perdons pas de temps, agissons. Mais n'oublions pas d'entourer tous nos efforts de prières. De prières pour avoir la force et le courage de faire le bien dans un monde où nous sommes étrangers et choisis. De prières pour que ceux au milieu desquels nous faisons le bien glorifient Dieu au jour de son intervention. Faire le bien en raison de notre identité, au milieu du monde et pour glorifier Dieu. Voilà notre réponse à « Pour vous, c'est quoi faire le bien ?» Avec ça, on a 20 sur 20. Oui, ce que dit la Bible nous demande ce que la Bible nous demande parfois peut nous sembler exigeant. Ça peut nous sembler parfois difficile. Surtout dans un monde tel qu'il est, tel qu'est le nôtre. Mais rassurez-vous, les chrétiens, les premiers chrétiens à qui Pierre s'adresse, ils ont aussi eu leur lot de persécutions. Alors comme eux, gardons la foi. Faire le bien, c'est pas quelque chose qu'on va faire seul. Faire le bien, c'est Dieu qui va nous donner le vouloir et le faire. Pour le faire. Oui, mes frères et sœurs, faire le bien, nous ne sommes pas appelés à le faire avec nos propres forces, sinon on risque de s'épuiser. Mais nous sommes appelés à le faire avec les forces que Dieu nous donne. J'aimerais juste conclure en citant la magnifique description des chrétiens donnée par un auteur anonyme du IIe siècle. Prenons-la comme le portrait d'une vie centrée sur Dieu. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ce n'est pas à l'imagination ou aux rêveries d'esprit agitées que leur doctrine doit sa découverte. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine humaine. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares suivant le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie une terre étrangère. C'est beau ça. Toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils partagent tous la même table, mais non la même couche. Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. J'aimerais juste laisser un temps de silence pour prier. Et si quelques-uns d'entre vous veulent prier à voix haute, allez-y et moi je clôturerai par la prière. Oui Seigneur, merci parce que c'est parce que tu nous as aimés, c'est parce que tu nous as fait du bien que nous pouvons à nouveau, à notre tour, faire le bien. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que nous sommes des étrangers sur cette terre, que notre patrie n'est pas ici. Seigneur, pardon, parce que cette notion, on a souvent tendance à l'oublier. Seigneur, aide-nous à être conscients de ceux autour de nous qui ont besoin qu'on leur fasse du bien, que ce soit nos frères et sœurs dans l'Église, ou que ce soit nos collègues ou les personnes qu'on va rencontrer sur notre route. Seigneur, donne-nous à chaque fois l'occasion de saisir l'occasion de faire le bien autour de nous, de montrer de l'amour, de transmettre l'amour que tu nous as donné. Et non, Seigneur, pas par nos propres forces, mais parce que tu nous donneras toi. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi pour mettre en pratique ta parole. Nous reconnaissons que sans toi, Seigneur, nos efforts sont vains. Et Seigneur, nous te supplions de nous venir en aide afin que tous puissent te rendre gloire, comme nous te rendons gloire. Amen.